RCF. RCF, tous mélomanes.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission musicale. Vous êtes avec nous jusqu'à 15h aujourd'hui et en ma compagnie pour vous présenter un compositeur méconnu. J'ai la joie d'accueillir Éric Rouillet. Bonjour Éric.
Bonjour Bertrand.
La dernière fois, vous nous aviez fait découvrir aussi d'autres compositeurs pleins de talent et assez méconnus, Georges Miguet et Jean Français. Alors aujourd'hui, on va faire la découverte d'un compositeur et chef d'orchestre lorrain qui s'appelle Gabriel Pierney.
Tous mélomanes, Bertrand Lachaine.
Ravi de vous retrouver une nouvelle fois, Éric. Alors, Georges Miguet, Jean Français, Gabriel Pierney, c'est une idée fixe chez vous ou est-ce qu'on a réellement tant de compositeurs comme ça, de talents qu'il faut réhabiliter?
Alors une idée fixe, oui, peut-être même une obsession, mais une obsession légitime pour laquelle je pense qu'il convient d'avoir la plus grande indulgence. Vous rappeliez les émissions dédiées à Georges Miguet et Jean Français, effectivement. Figurez-vous que Gabriel Pierney est un peu du même sceau, puisqu'il est compositeur d'innombrables œuvres, dont des mélodies, de la musique de chambre, des pages pour orchestre avec ou sans soliste, des poèmes symphoniques et ces fameux oratorios dont nous avions parlé avec Georges Miguet. On admet volontiers qu'il fut un compositeur abondant et habile, ce qui laisse malheureusement supposer très fréquemment qu'il a composé des pages honorables, mais dilué, dont on peut s'accommoder sans vraiment de traumatisme. Voilà, donc c'est une musique qui, pour certains, manquerait de personnalité.
Et vous allez bien sûr, je suppose, nous convaincre du contraire, qu'il s'agit d'un compositeur plus dense et concentré que ne le laisse envisager la littérature qu'il concerne.
Alors, par rapport à Georges Miguet, qui est quand même rocailleux, qui est inconfortable, qui est troublant et qui élabore évidemment ses partitions un peu sur des lambeaux de salpêtre. C'est un artisan, un nécessiteux. Jean Français, qui a une personnalité également très affirmée, qui est malicieux, qui est complexe et qui est cohérent d'ambiguïté. La personnalité de Gabriel Pierney est un peu plus classique, un peu plus modelée, moins prononcée dans les excès. J'oserais vous dire qu'il aborde un peu les auditeurs avec un peu plus de prévenance et de gratitude. Mais est-ce pour autant une raison de le condamner et de ne pas prendre soin de sa musique?
Voilà, et prendre soin donc des gens qui l'écoutent aussi, comme nous, et puisque nous sommes dans les politesses, avec quoi nous allons adhérer à ce portrait plutôt sage quand même de votre part?
Mais disons que je démarre un peu sur la retenue. Voilà, nous allons découvrir le dernier mouvement de sa sonate pour violon et piano, écrite en 1900 et dédiée au fameux violoniste Jacques Thibaud. Je voulais le remettre dans un contexte historique et pas faire sa biographie comme on fait les biographies, parce que c'est un compositeur qui aurait pu connaître trois guerres.
D'accord.
Voilà, donc je voulais le.
Donc là, on va écouter quelque chose écrit en 1900, c'est ça?
Voilà, en 1900. Et pour apprécier cette musique, je voulais faire un parallèle avec la dégustation de vin. On pourrait presque dire en rétro-olfaction, c'est-à-dire, vous savez, c'est les flaveurs en arrière-bouche qui sont perçues par le système olfactif. Quand on déguste le vin, on le fait souvent. Nous aurions des arômes un peu de César Franck, avec quelques vapeurs de Camille Saint-Saëns et de Jules Massenet. Un dégustateur avisé. Mais il y en a, hein. Pourrait même y percevoir des effluves de Claude Debussy qui n'avait pourtant pas écrit sa sonate. Voilà. Mais à la dégustation proprement dite, c'est vraiment du Gabriel Pierney. Les tanins sont soyeux et délicats. Et en fait, chez Gabriel Pierney, il n'y a jamais d'emportement gratuit.
Voilà. Et donc, on peut l'écouter sans modération.
Voilà. Et sans traumatisme apparent. Thank you.
Vous venez d'entendre et peut-être de découvrir pour la première fois Gabriel Pierné et sa sonate pour violon et piano. C'était le troisième mouvement qu'on vient d'entendre avec au violon Olivier Charlier et au piano Jean Hubot. C'est un disque paru sous le label Erato en 1990. Éric Rouillet, Gabriel Pierné, finalement, c'est une musique au doux parfum un peu réconfortant. Elle est convaincante, cette musique. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, elle est tout à fait digeste pour de la musique contemporaine. Ça s'écoute vraiment facilement. Et de quoi va-t-il s'agir maintenant?
Alors, de façon très étonnante, d'une œuvre tellement différente qu'on a du mal parfois à s'imaginer qu'elle émane du même compositeur.
Ah oui.
C'est ce qui fait un peu la grandeur, la complexité et parfois la difficulté de notre musique française. C'est que dans l'histoire de la musique française, on a du mal à comprendre par rapport à d'autres pays que des artistes puissent être à la fois frivoles, profonds, graves.
Oui, qui s'enferment pas dans un style, quoi.
Voilà, et on avait ce malentendu avec Jean Français, Jacques et son fils, qui a toujours donné une image un peu de taquin, de compositeur un peu léger, alors qu'il a fait un oratorio absolument extraordinaire. Et là, avec Gabriel Pierné, on a aussi, avec un poème symphonique d'inspiration médiévale qui s'appelle L'an 1000, l'an 2000, elle n'a pas pu le faire, évidemment, on a un joyau qui se veut l'exaltation des angoisses du monde chrétien, à l'entrée donc de ce nouveau millénaire, et il peint la nature avec une puissance évocatrice qui veut exprimer la peur, la dévotion et une sorte de folie hystérique. Et alors, la partie médiane s'appelle la fête des fous et de l'âne. Il y a une débauche sonore inhabituelle qui livre une grouillante, une sorte de jubilation, de parodie de culte. Alors évidemment, c'est pas toujours facile à saisir, à comprendre et à aimer. Et il mélange un peu des grelots, des rites convulsés, des beuglements saugrenus, et ça finit par ressembler à un tableau de Jérôme Bosch.
Alors,
on ressent la foule avec un déferlement et des débordements de clochettes. C'est pas un mouvement douloureusement méditatif comme on pourrait s'y attendre. Ça sent la rue, ça sent la transpiration, c'est un peu parodique, c'est très particulier, et a priori, c'est très représentatif de ce qui a fait le succès de cette œuvre il y a à peu près un siècle. Et une œuvre qui a été composée en 1898. Je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être le morceau qui plairait le moins. Mais alors, à l'époque, c'était une vraie gourmandise.
Eh bien, écoutons L'an 1000, fête des fous et de l'âne. Thank you. Fête des fous et de l'âne, une musique très descriptive, musique de dessin animé de Disney. Voilà, on se croirait dans Notre-Dame de Paris avec cette œuvre qui s'appelle L'An 1000 de Gabriel Pierné. Avec l'Orchestre National et les chœurs de l'ORTF, un enregistrement en public de 1967, dirigé par Jean Fournet sur le label Solstice Yvette Carbou. Musique pétillante, Éric Rouillet, presque exubérante. Vous sembliez nous faire comprendre tout à l'heure que d'autres mouvements pouvaient avoir votre préférence dans cette œuvre. Ce morceau-là qu'on vient d'entendre, il est coincé entre d'autres choses qui n'ont rien à voir.
Alors, il est coincé... entre deux mouvements méditatifs, profonds, graves. C'est un mouvement qui m'a interpellé parce que il laisserait supposer une certaine... Il y a de la dérision, mais une certaine... pas frivolité. Mais
légèreté, on va dire.
Un manque de profondeur. Ouais. Alors que c'est très construit. C'est... Pour trouver du sens à ce passage, cette fête des fous et de l'âne, il faut écouter le dernier mouvement que nous écouterons tout à l'heure, plus tard.
En fin d'émission. Restez bien avec nous, alors.
Voilà. Donc, maintenant, nous allons nous faufiler, si vous voulez bien, dans un ballet en deux actes qu'a écrit Gabriel Pierné, qui s'appelle Cydalise et le chèvre-pied. Alors, on recommence à changer totalement de monde musical. C'est une œuvre qui a été créée en 1923. Nous fêtons donc le centenaire de cette œuvre. Dans une indifférence évidemment assez remarquable, tout comme une fresque musicale épiphanie qui avait été composée par André Caplet. Alors, dans ce ballet, il est question d'une histoire d'amour, dans le parc du château de Versailles, à la tombée de la nuit, qui mêle des divinités, des nymphes, des danseuses. Et la première ballerine, Cydalise, et le jeune chèvre-pied, Styrax. Alors, évidemment, les histoires d'amour en musique, quand on lit les livrets, on a envie de ça fait sourire évidemment,
oui.
Voilà, comme
toujours.
Voilà. Alors évidemment faut se concentrer sur ce qu'en a fait Gabriel Pierné, notamment l'utilisation d'un chœur sans parole et des emprunts à la mythologie qui pourraient nous rapprocher de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, qui date lui de 1911. L'écriture de Gabriel Pierné, elle est originale, elle est subtile, elle est raffinée. Et l'inspiration est constamment imaginative. Alors, l'orchestre est coloré, il est chatoyant. Il se dégage constamment une forme de poésie et de magie. Il aura fallu tout de même attendre juin 2000 pour le premier enregistrement intégral de ce chef-d'œuvre avec un chef d'orchestre israélien qui était David Shalom, qui était vraiment un très grand chef et qui est mort 3 mois plus tard d'une crise d'asthme lors d'une tournée au Japon. Voilà. Je propose que nous écoutions un mouvement qui illustre la féerie et la beauté incandescente de cette œuvre, et le mouvement s'appelle l'apparition de la source.
Cydalise et le chèvre-pied de Gabriel Pierney, danse de dryade et apparition de la fontaine avec l'orchestre philharmonique du Luxembourg, dirigé par David Chalon, un enregistrement de l'an 2000 sur le label Timpani. Éric Rouillet, ce ballet de Gabriel Pierney, il est magnifique, hein, Cydalise et le chèvre-pied. Est-ce que toute l'œuvre est aussi agréable, charmante à écouter ?
Alors, elle est agréable, elle est étrange, elle est féerique. Alors là, c'est un passage un peu extatique.
C'est très gracieux.
Ça flotte en l'air. C'est léger, c'est vaporeux. Je me demande si Gabriel Pierney n'était pas amoureux.
C'est bien possible.
Pour écrire une œuvre de cette façon, il faut quand même être dans un état d'esprit très particulier. Et vous voyez que ces trois œuvres que nous avons écoutées auraient pu être composées par trois compositeurs différents.
On a du mal à reconnaître la patte.
On la reconnaît. Surtout dans la musique de chambre.
C'était sa spécialité, peut-être.
Alors, peut-être que c'était plus facile aussi de mettre son empreinte dans la musique de chambre, de laisser transparaître qui il était, je suppose.
C'était un indépendant, Gabriel Pierney.
Oui. Ouais. On va...
Quelqu'un qui faisait tout seul, quoi.
Il était farouche. Vous savez, c'était une époque comme Albéric Magnard, comme on parlait de Paul Ducasse, Maurice Emmanuel. C'était des compositeurs, des personnalités qui étaient très éprises de liberté. Et qui ne voulait pas être, pas faire de compromis pour avoir du succès. Et d'ailleurs, pour reprendre une phrase de Philippe Soupeau qui avait fondé le surréalisme, il y a une génération de grands artistes qui ont préféré souvent le silence au trottoir. Voilà, c'était la grande phrase de Philippe Soupeau qui avait connu André Breton et Louis Aragon. Ils avaient fondé le surréalisme. Et justement, lui. Évidemment, là, on fait une petite digression, mais Philippe Soupeau n'a pas été aussi reconnu qu'André Breton et Louis Aragon. Et il expliquait qu'il y avait un équilibre entre le silence et le trottoir, et que ceux qui avaient été le plus reconnus, c'était déversé dans le mauvais camp.
Voilà. Okay. Voilà.
Alors, au sujet.
À Gabriel Pierney.
Voilà, pardon. Oui, alors, au sujet de ce ballet, il est tout de même étrange, parce que quand on l'écoute comme ça, c'est quand même une œuvre formidable, facile à écouter, qui rentre tout de suite, qui est belle. On se demande pourquoi c'est pas une priorité pour les directeurs de programmation de nos innombrables festivals, parce qu'il y en a tellement en ce moment, et l'été, il y en a de partout. Des festivals qui sont abreuvés de subventions publiques, et les directeurs de programmation pourraient de temps en temps, je crois, subir la culpabilité d'avoir du courage et du bon goût. Et en fait, jamais. Et ça, c'est vraiment dommageable pour notre musique.
Donc c'est un appel que vous lancez au directeur de festival, s'il nous écoute.
Non, mais c'est dans le vide.
Pour programmer le ballet Cydalise et le chèvre-pied de Gabriel Pierney.
C'est dans le vide. Nous allons écouter là encore une œuvre différente, c'est un concert Stuck de Gabriel Pierney pour harpe et orchestre. Alors c'est très étonnant parce que j'ai pris la description de cette œuvre dans le livret du disque, qui est écrit par Jean Hamon. Et il écrit... Élégante, fringante, charme tendre, douce élégie et pétulant bavardage. On trousse le tout avec un sourire, c'est ce que la musique française sert de permanent. Des luthistes de Louis XIII à Chabrier. L'enregistrement que je vous en propose évidemment est l'occasion de saluer encore un autre chef d'orchestre très peu connu qui s'appelait Jean-Baptiste Marie. Et alors lui, il n'est pas décédé 3 mois après l'enregistrement, mais il avait tellement de trac qu'il a arrêté d'enregistrer en public et de faire des concerts. C'est une carrière très étrange. Voilà, il y a beaucoup d'anecdotes.
Ça peut paralyser le trac, c'est vrai.
Ouais. Voilà. Mais alors, en général, pour les pianistes, les violonistes, oui, mais en général, un chef d'orchestre, c'est beaucoup plus rare. Hein. C'est beaucoup plus rare.
Même s'il est dos au public, souvent.
Mais c'est peut-être. Il y a des chefs d'orchestre qui ont un ego très dimensionné ou surdimensionné, qui ont pu enregistrer en regardant le public.
D'accord.
Ça s'est fait très rarement. Hein. Voilà. Alors. Dans ce concerto pour harpe, c'est Lily Laskin, la célèbre harpiste qui l'accompagne.
Concertstück pour harpe et orchestre de Gabriel Pierney. C'était l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire avec la brillante harpiste Lily Laskin, dirigée par Jean-Baptiste Marie en 1961 sur le label Mandala.
RCF, Tous Mélomanes.
Et aujourd'hui dans Tous Mélomanes, Éric Rouillet, vous nous faites découvrir un nouveau compositeur français au talent pas assez reconnu, on va le dire, et pourtant il est charmant, c'est vraiment de la très belle musique qu'on entend aujourd'hui avec ce Gabriel Pierney, que vous n'avez pas voulu nous situer en début d'émission par rapport à sa vie à l'époque qu'il pourrait représenter. Vous allez peut-être nous en dire plus maintenant sur lui.
Oui, alors il ne s'agissait pas d'une dérobade de ma part, mais vous savez que l'histoire est quand même complexe à appréhender, surtout pour les musiciens du dernier siècle. Gabriel Pierney était né en 1863 à Metz, en Moselle, et connaîtra la guerre franco-prussienne, ce qui était une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse, qui éclate en 1870. Sa ville est assiégée, elle capitule, avant l'annexion de l'Alsace-Moselle. Il aura donc subi cette première tentative de germanisation, avec un exil massif de Messins en France, dont sa famille faisait partie. L'une des préoccupations de l'envahisseur étant de faire disparaître la langue française. La Première Guerre mondiale impliquera que les soldats de Metz font partie de l'armée allemande et seront expédiés sur le front oriental pour éviter des désertions et des révoltes. À la signature de l'armistice, l'Alsace-Moselle sera enfin radiée à la France et en 1939, évidemment, vous êtes au courant, une nouvelle annexion brutale. Mais notre compositeur s'était éteint en 1937, ce qui fait qu'il aurait pu connaître trois guerres contre les Allemands.
Merci pour ce petit rappel historique très utile, les trois guerres de 70, 14, 18 et 39, 45. Est-ce que le fait que Gabriel Pierney, qui aurait pu connaître ces trois guerres, est-ce que ça aura une incidence sur l'homme ou sur le compositeur? Parce que les œuvres qu'on a entendues jusqu'à présent, ça ne le laisse pas forcément deviner quand même.
Alors, c'est un mystère, j'ai essayé de gratter. Je crois que ces épreuves laissent des empreintes qu'il ne faut pas s'en débarrasser. Alors, où elles sont? Est-ce qu'elles sont cachées? Comment elles sont synthétisées, métabolisées? Si vous voulez, je pense souvent à un ouvrage du philosophe Vladimir Jankélévitch qui a écrit d'innombrables biographies de compositeurs. Il est d'ailleurs renommé, reconnu, et il fait autorité. Quand il parle d'un compositeur, tout le monde se tait. Et pourtant, on ne met jamais en valeur peut-être son livre phare qui s'appelle « L'imprescriptible ». Et il dit, le philosophe peut pardonner, mais à titre personnel, l'homme abandonne pour toujours la possibilité de pardonner au peuple allemand. Et il est tellement dans ce rejet qu'il va jusqu'à écrire que Bach est un hypocrite, qu'il n'a aucune sincérité, que Beethoven est encombré de métaphysique. Et Georges Migaud partage cette crispation envers tout ce qui est allemand.
Et Gabriel Pierney?
Eh bien, Gabriel Pierney écrit adorer Wagner, il précise à propos de Bach, Bach est le nec plus ultra de la musique, le plus colossal, le plus exemplaire, le plus parfait, le plus abouti, le plus intellectuel de tous, qui a raison dans ces deux attitudes totalement opposées et qui semblent incompatibles et irrésolvables. Tout le monde, mais on peut voir que sur des événements aussi dramatiques, des compositeurs et puis avoir des assimilations de la douleur totalement différentes avec, par exemple, Georges Migaud ou Vladimir Jankélévitch qui ont rejeté définitivement tout ce qui venait de l'Allemagne. Gabriel Pierney, non. Et c'est un peu par rapport à ce qui se passe, si vous voulez, aujourd'hui en Ukraine ou en Russie. J'entends des gens dire il faut arrêter de lire Dostoïevski et arrêter d'écouter Tchaïkovski. Ça paraît tellement idiot. Ouais.
Alors Gabriel Pierney, il a écrit pendant la Première Guerre mondiale un quintet pour piano et cordes. En 1917.
Absolument. Et le premier mouvement est reconnu pour son audace d'écriture, mais il contient, je crois, une petite infiltration dramaturgique qui pourrait nous faire estimer qu'il y a quand même quelques réminiscences des troubles de l'époque. Thank you.
C'est vraiment de la très très belle musique qu'on écoute cet après-midi dans Tous Mélomanes. Moi je découvre peut-être comme vous Gabriel Pierné, compositeur et chef d'orchestre français, avec ce quintet pour piano et cordes. Ici c'était le Quatuor Viotto et Jean Hubeau au piano sur le label Erato, un enregistrement de 1983. Éric Houillet, Gabriel Pierné dans la musique de chambre avec un extrait de voilà du premier mouvement de son quintet pour piano. C'était une version engagée, persuasive. Quelle facette du compositeur on va pouvoir apprécier pour terminer l'émission ?
Alors, je voulais terminer avec son oratorio Saint-François d'Assise, qui est normalement, a priori, et même pour moi, une de ses œuvres majeures. Mais le seul enregistrement que j'ai trouvé dont nous disposons, qui date de 1953, souffre vraiment d'une qualité sonore problématique.
Oui, à la radio, on essaie de faire attention.
Voilà, qui le réserve vraiment aux auditeurs.
Il faudrait le réenregistrer, en fait. Voilà.
Ah, il faudrait. Mais il faut un orchestre, des chœurs qui soient convaincus. Il faut un chef, il faut des moyens, et ça demande beaucoup de conviction et de...
On en reparlera, là.
Voilà. Alors, du coup, c'est l'occasion de revenir vers le merveilleux poème symphonique L'An 1000 et son dernier mouvement, après la fête des fous et de l'âne, qui s'appelle Te Deum, un mouvement profond, pudique, dense, aéré. Et c'est très étonnant, vous allez voir, ça mélange la robustesse et le côté diaphane en même temps. On parlait tout à l'heure des éléments contradictoires, ambigus, et finalement c'est cohérent, mais c'est pas contradictoire et c'est pas ambigu. Sur le site de Musica e Memoria, qui est dirigé par Denis Avard de la Montagne, il est précisé dans un article Gabriel Pierné, héritier de César Franck, seules les âmes intégralement soumises aux divins appels du Christ, l'âme d'un César Franck par exemple, ne saurait accéder à la pureté des cimes spirituelles sans le recours de la beauté terrestre, de cette ineffable beauté dont la Providence a voulu gratifier les croyants, afin que cette splendeur visuelle et auditive leur servît, leur venue, de tremplin pour le bon final vers l'idéal suprême.
Bon, c'est très joli.
Alors,
c'est très poétique en tout cas.
Cela est-il transposable à Gabriel Pierné ? Ce sera une question non résolue, et aussi aux auditeurs de trouver dans quelle œuvre Gabriel Pierné est le plus Gabriel Pierné finalement.
L'an 1000, Te Deum de Gabriel Pierné par l'Orchestre National et les chœurs de l'ORTF, enregistrement en public en 1967 avec à la direction Jean Fournet sur le label Solstice Yvette Carbeau. Vous retrouverez toutes les références des musiques de Gabriel Pierné qu'on vous a présentées aujourd'hui avec Éric Rouillet dans la page de Tous Mélomanes sur rcf.fr. Merci beaucoup Éric Rouillet.
Je vous en prie.